Sud Radio Rugby, c'est l'instant de l'invité.
Toujours dans le Clubhouse Sud Radio Bisport, Hugo Mola, notre invité, le podcast qui parle de sport autrement. Voilà, on a parlé beaucoup dans la première partie du sport, du sportif que vous avez été, Hugo, du sportif que vous êtes encore, puisque vous jouez au paddle et que vous faites du vélo. Le paddle, vous jouez avec qui ?
Alors, on a tout le staff en règle générale avec l'administratif du club, où on a la chance d'avoir des paddles juste à côté de notre centre d'entraînement et ça joue tous les midis assez régulièrement, donc il y a une belle compète et puis ça permet de créer du lien entre nos différents milieux, parce que même si on est tous salariés des mêmes clubs, ça permet de créer du lien entre l'administratif, le staff sportif, de temps en temps les joueurs. Arthur Bonneval, Thomas Ramos sont des excellents joueurs de paddle, donc ça nous permet de jouer et d'avoir de la compète, parce que je crois que la compète ça reste quand même essentiel.
Ouais, c'est ce qui maintient, on va dire, jeune, entre guillemets, aussi. Ouais. Hein, non, mais ça fait un peu, entre guillemets, c'est des trucs de
vieux.
D'enfant, la compétition, finalement, d'arriver le premier, c'est des trucs de gamin, quand même. Moi, je vois, les miens sont jeunes et tout de suite, ils ont cet instinct-là d'arriver le premier, alors qu'on ne les conditionne pas spécialement. Quoi.
C'est, mais après, c'est... Alors, on ne les conditionne pas, mais il est clair que là où j'ai été éduqué en termes de sport, à savoir au Stade Toulousain, c'était quand même quelque chose d'ancré fondamentalement sur la compète, incarné par certaines personnes, mais incarné aussi par chacun d'entre nous, parce qu'on avait cette volonté de gagner, et on a eu la chance de gagner très vite, très jeune, donc ce qui nous a peut-être aussi permis d'affûter cette compétence-là, parce que je pense qu'il y a une compétence à savoir gagner.
On a beaucoup parlé d'Hugo Mola, le joueur, l'ancien joueur, le sportif que vous êtes aujourd'hui. On a parlé de l'entraîneur. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous soyez et deveniez entraîneur ?
Bon, ça m'a toujours attiré dans le sens où on avait une règle assez établie au club dans les années 80-90, c'est-à-dire que tu entraînais toujours une catégorie en dessous ou de l'école de rugby, de la tienne, donc les cadets, tu entraînais les mini-pousses, en junior tu entraînais les poussins et tu finissais par entraîner à l'âge adulte les minimes ou accompagner les cadets lorsque tu avais encore cette possibilité d'avoir un peu plus de temps que de mesure. Donc ça m'a toujours plu, j'ai toujours entraîné des équipes de jeunes. Et après la bascule, elle a été aussi de...
Mais tout le monde l'a pas ça, pourquoi vous l'avez eu plus que les autres ?
Bon, mais on était au final on était quand même... nombreux à être sur les terrains, à passer du temps au club. Donc je pense qu'on est nombreux aussi de ma génération à avoir entraîné, de Philippe Carbonneau, en passant par Régisson, en passant par Didier Émile Ntamack, Didier Lacroix. Enfin, on a tous entraîné parce qu'on était justement confrontés à ça très tôt. Donc je pense que pour certains, ça a créé une vraie appétence. Pour d'autres, ça a été juste éphémère. Mais c'est clair qu'on a baigné là-dedans et c'était un peu une forme de transmission obligatoire dans le club où j'ai été entraîné par Skrela Villepreux, puis Daniel Saint-Thomas et son frère Christian. On a baigné là-dedans, Guinovès, Serge Aïr, c'était vraiment des anciens joueurs. Alors c'est vrai que parfois on nous reproche un peu cette consanguinité, mais ça a éveillé quand même beaucoup de compétences. Après reste à savoir si on l'est tous devenus, mais ce qui est clair, c'est que on a en tout cas tous eu cette appétence à un moment ou à un autre.
Est-ce qu'il y a un entraîneur qui, dans l'actualité aujourd'hui, retient votre attention ou que vous suivez, pas forcément dans le milieu du rugby d'ailleurs ?
Comme, au même titre que j'étais pas forcément fan d'autres sportifs, je regarde, j'écoute beaucoup, je regarde comment se confrontent plus les entraîneurs ou les réactions en fonction de situations m'intéressent. Encore une fois, c'est plus des contextes que des personnes ou que des hommes. Après, un m'interpelle dans le foot un peu plus que les autres, c'est Carlo Ancelotti.
T'es excité parce que la première fois ici, devant les fans de PSG.
Dans sa manière de passer, d'avoir entraîné les gros clubs, d'avoir des résultats avec des endroits différents, avec des places fortes du foot international différentes. Donc... je ne crois pas à la méthode, je le dis assez souvent, mais je ne crois pas à la méthode applicable à tous et partout. Mais je crois que ce mec dégage un truc un petit peu différent, et dans sa capacité à analyser les endroits et les inconscients culturels des coins, et la capacité à tirer le meilleur de ses joueurs.
Je voudrais voir une bonne équipe et l'équipe jouait bien.
Après, un dans mon milieu m'interpelle aussi, c'est Warren Gatland qui a
le coach du
Pays de Galles et des Lions. Qui, avec peu, fait beaucoup. Alors quand il a les Lions, il a beaucoup, mais quand il a le Pays de Galles, avec peu, il arrive à faire des choses assez extraordinaires avec une nation qui a quand même peu de licenciés et une organisation qui n'est pas celle de l'Irlande ou de l'Angleterre. Donc voilà, il y a quelques gars comme ça qui m'interpellent et auxquels j'apporte de l'attention quand les situations se présentent pour voir comment ils réagissent.
Ça veut dire que vous lisez les interviews, les entretiens de ces...
Il m'est arrivé de lire, pour ce qui est de Carlo Ancelotti, un peu son... Alors c'est des faux biopics, mais c'est des biographies ou des choses sur lesquelles... Parce que le jour où tu racontes ou tu expliques ta méthode, souvent c'est un peu trop tard. Donc c'est un peu la base et la règle. Mais oui, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu. Et encore une fois, j'essaie toujours de regarder un peu leur réaction dans des situations particulières pour voir quelles peuvent être leur mode de pensée, leur mode de réaction. Et voilà, il y a plein de gens qui interpellent dans le monde du sport et qui... Et qui ne laisse pas insensible. Je crois que c'est intéressant pour nous qui sommes acteurs du sport de suivre, de regarder. Quand on a la chance d'échanger, j'ai la chance de pouvoir échanger assez régulièrement avec Onesta, puisque Toulousain est proche de la direction du club. Et donc, avec le staff, une fois par trimestre, on échange avec Claude. C'est quand même des mecs qui ont gagné.
Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner les compétitions. Je ne sais pas ce que l'histoire retient. Écoutez, je pense qu'on aura effectivement des choses à se raconter quand on se croisera dans 10 ou 15 ans.
Qu'est-ce qui vous apporte un peu de hauteur, un peu de distance?
Mais c'est de la hauteur, de la distance et parfois des choses hyper pragmatiques. Parce qu'en fait, quand tu entraînes, le monde professionnel est quand même hyper chronophage par à la fois le temps qu'on y passe, mais surtout par la... tu finis par avoir un prisme presque déformant de ton activité et que le recul ou le retour à la réalité avec des choses très basiques, simples, on va y venir, mais moi, dans mon parcours d'entraîneur, le retour à l'école de rugby a été d'une richesse absolue parce que j'ai presque eu l'impression d'avoir triché pendant des années tant je ne respectais pas les choses essentielles que j'avais apprises gamin. Et en fait, depuis que je suis passé à l'école de rugby, depuis que je suis repassé par le rugby un peu amateur, je crois à ces valeurs-là. Donc, j'essaye de me les appliquer, de les appliquer au quotidien.
Quand êtes-vous repassé par le rugby amateur et...
Mais déjà, j'ai commencé très tôt à entraîner à 30 ans, 31 ans avec Mauricio Régardon, une expérience à Mazamé, où nous sommes montés de Fédéral 2 à Fédéral 1 avec un groupe génial. Où là, ça a été ma première expérience avec des adultes. Puisque jusqu'alors, je n'avais entraîné que des enfants, ce qui est fait des enfants ou des adolescents, ce qui est tout à fait différent dans l'approche. Et puis après mon expérience de Brive, j'ai eu la chance de côtoyer les médias et de bosser dans les médias, ce qui est quand même assez agréable. Et pour autant, j'allais régulièrement, comme souvent les papas quand ils amènent leur fils à l'école de rugby, j'allais souvent à l'école de rugby du TUC. Et je suis retombé sur les éducateurs géniaux, des mecs qui m'ont fait revenir à ce que je pense être l'essence de notre sport et qui parfois sont oubliés dans le milieu professionnel. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et les Henri Surac, les frères de bas du TUC sont des vieux éducateurs, alors vieux par l'âge, mais vieux éducateurs parce qu'ils y ont passé du temps et qui ont des valeurs essentielles dans notre sport qu'ils véhiculent et qui moi aujourd'hui me sont chers et que j'essaie de me rappeler assez régulièrement.
C'est comme quoi par exemple? C'est quoi ces valeurs? Enfin, si on devait en ressortir quelques-unes. Si,
après il y a des valeurs de partage. Alors je vais faire bien sûr le mec bateau et consensuel dans le sens où dans notre sport, on a quand même besoin et on a un peu oublié ces valeurs de partage, de solidarité, d'échange, d'effort collectif. Ça, c'est évident. Mais dans le jeu proprement dit, dans le collectif, dans le jeu de passe, dans la capacité qu'ont les gens on est tellement sensible aux porteurs de balles qu'on en avait oublié presque qu'on faisait un sport co dans le rugby pro. Et parfois, on loue le meilleur joueur du match, on loue le joueur de l'année, on récompense le meilleur entraîneur. Alors que c'était l'opposé de ce qu'on était. Et quand tu vas dans les écoles de rugby, et particulièrement celle du TUC où j'ai passé un petit peu de temps, on s'en fout du meilleur joueur. On s'en fout de on ne parle que d'équipe, on ne parle que de collectif, on ne parle que de solidarité, on ne parle que de jeu. Et moi, ça m'a ressourcé, mais de manière incroyable. Tellement bien que je me suis vraiment posé beaucoup de questions avant de rebasculer dans le monde pro, parce que je me croyais trop loin de tout ça. Et vous le savez peut-être mieux que personne, mais le passage après de rebasculer sur une vraie aventure humaine à Albi, en Pro D2 m'a reboosté comme jamais.
Est-ce qu'il y a un entraîneur ou un éducateur qui t'a marqué? Alors bon, enfin qui vous a marqué, Hugo? On a parlé de ces entraîneurs du TUC, on a parlé également du Stade Toulousain, mais est-ce qu'il y en a à Sainte-Foy par exemple, ou des gens qui ont été marquants dans l'apprentissage?
Alors à Sainte-Foy, j'ai très peu joué au rugby à Sainte-Foy, donc pas forcément, mais à Blagnac, j'ai eu la chance d'être entraîné par le papa et l'oncle de Max Médard. Donc Alain et Francis Médard m'avaient marqué, avec Christophe Deslois à l'époque qui était entraîneur, donc j'ai eu la chance de jouer et d'être entraîné par Christophe. Mais moi, ma génération a vraiment été marquée par deux entraîneurs qui étaient les frères Saint-Amans, qui étaient Christian et Daniel, décédés depuis.
Remise en jeu par Saint-Amans.
Qui ont marqué toute notre génération parce que ils avaient baigné là-dedans, baigné dans ce rugby, on va dire de la mamelle, Villepreux, Bruce-Créla, qui était un rugby de mouvement, d'adaptation, et sur lequel nous on s'est construit en tant que joueurs, mais en tant qu'hommes aussi dans notre fonctionnement. Donc c'est des gens qui m'ont marqué et très certainement qui ont fait la personne que j'ai été plus tard, tant ils nous ont influencés et marqués par leur quotidien et leur implication. Aujourd'hui, tout est tellement bordé, voire même toujours, on va dire, défrayé, puisqu'aujourd'hui, on trouve des éducateurs, parce qu'ils donnent de leur temps, ça devient un casse-tête profond. Et c'est peut-être d'ailleurs là une des premières causes de notre fuite en avant de licenciés, au-delà de la dangerosité de notre sport. Je crois que c'est de trouver des éducateurs, des bons éducateurs. Et j'ai toujours été sensible à ça, à avoir cet éducateur qui était un éducateur, on va dire un accompagnateur de vie, sans qu'il t'explique la vie, mais il transpirait tellement de choses de ces personnes-là que, et c'est toujours le cas pour beaucoup, que ben voilà, qu'on a été éduqué par ça et que je suis encore une fois toujours, je me pose souvent la question de savoir ce qu'on peut apporter dans le rugby pro, parfois au-delà du rugby. Bien sûr qu'il y a l'aspect technique, bien sûr qu'il y a l'aspect humain, mais parfois on aimerait qu'il y ait d'autres choses qui transpirent.
Mais ça, vous arrivez à le transmettre là, à des professionnels aujourd'hui qui sont, on va dire qui ont plein de contraintes aussi, parfois des objectifs personnels qui sont difficiles à agglomérer à un collectif.
Il faudrait leur poser la question à eux d'abord, mais on essaye de garder ça par la filiation, la transmission qui est la nôtre dans notre club, mais aussi par peut-être la capacité à rendre l'activité importante, mais pas essentiel.
À se décharger la pression un peu.
Ouais, et puis je pense qu'il faut être hyper exigeant sur la partie qui est la nôtre. L'exigence technique, l'exigence de comportement, l'exigence de résultats, d'engagement, ça c'est évident. Mais après, ce sont des hommes, des gamins pour certains, qui débutent dans la vie, ils ont la chance de pouvoir vivre de leur passion. J'aime à croire encore que nombreux sont passionnés. J'ai été un peu désabusé d'une certaine génération qui, je pense, ne l'était plus. Celle que j'ai la chance d'entraîner aujourd'hui, allant de Romain Tamac, Lucas Tauzin, jusqu'à Jérôme Quesneau ou Joe Tecori, je les sens profondément passionnés par le rugby et par leur activité. Donc je pense que ça, déjà, c'est la base.
Ça veut dire qu'il y a des discussions acharnées, des confrontations sur des choix tactiques ou sur...
On essaie de partager beaucoup avec d'un club à l'autre ou d'une organisation à l'autre, il y a cette capacité à faire des réunions, mais je crois beaucoup à ce côté un peu informel, à ce côté qui transpire, pas forcément
un
tout ce
qui est dit. Un peu de micro-management.
Oui, et puis de saisir l'occasion. Tu peux faire la réunion, bien évidemment qu'il y a des choses très cadrées, carrées dans notre quotidien et dans notre organisation hebdomadaire, mais pour autant, il faut être capable d'en sortir, de trouver les bons moments, les bons mots. Je sais que dans la journée de préparation d'un match, je vais avoir à croiser un ou deux joueurs, parfois qui jouent, parfois qui ne jouent pas, parfois qui sont au-delà de la feuille de match 24 ou 25e, et que cela, à un moment, il faudra être en mesure de pouvoir échanger de manière très libre sur autre chose que des choix très pragmatiques liés à l'adversaire, à l'état de forme, etc. Donc il faut arriver à trouver ces moments, et j'ai la chance aussi de travailler avec un staff qui sur cette... sur ce plan-là, le même philosophiquement.
Mais c'est un peu une méthode, ça, Hugo Mola.
Je crois pas. Je crois que c'est plus plus une envie de fonctionner. Alors je sais pas si c'est différemment parce que je l'ai vécu ailleurs dans d'autres circonstances et malheureusement ça a pas matché comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui l'évidence elle passe par le bien-être. Alors sans parler de bien-être au travail parce que c'est tellement ridicule cette notion, mais oui, le bien-être dans ton activité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous parliez de physique il y a encore quelques temps, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un garçon avec tous les standards physiques au plus haut niveau mais en pleine dépression qu'un garçon bien dans sa tronche et avec peut-être quelques digressions physiques ou autres? Donc c'est ça qu'on a souhaité. Bien sûr que je veux des athlètes, bien sûr que je veux des joueurs capables de répéter les efforts à haute intensité, mais avant tout je veux des mecs qui soient convaincus et conscients de ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent et pas complètement déconnectés de la réalité.
Hugo Mola, l'invité du Clubhouse, le podcast Sud Radio, la radio qui parle vrai, et Bisport, le média social du sport. C'est la fin de notre deuxième partie. À tout de suite.
Sud Radio Rugby.